Pulsan, l'émission d'ASAN, la Société d'astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission mensuelle de la Société d'astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Alter Nantes. Vous êtes avec la Société d'Astronomie de Nantes pour vous parler d'astronomie pendant près de 2 heures, jusqu'à 23 heures. On a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur Terre. Ce soir, on va vous parler de deux choses les plus importantes. Vous faire un petit compte-rendu de la conférence qu'a donné Willy Benz ce mois-ci, le mois de novembre, à la Société d'Astronomie de Nantes. La salle de Bretagne à Nantes, qui nous a parlé de la Lune.
Le 16 novembre,
oui, c'est ça. On va vous présenter un peu la prochaine conférence grand public qui va se dérouler le vendredi 14 décembre, ce mois-ci. Et puis on parlait de d'autres petites choses autrement. On va commencer vous dire que tout à l'heure, on va vous poser une question pour vous faire gagner des places pour la conférence. Il va falloir y répondre. Vous téléphonerez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, pour gagner des places pour la conférence du 14 décembre.
Dont nous allons parler tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
Ça va être une belle conférence. On passe aux petites nouvelles.
Une petite nouvelle astronomique, surtout de Nantes, et puis tout ce qui tourne autour.
Alors la grande nouvelle de ce mois-ci, sont les ciels de Nantes, puisque c'était une manifestation que nous souhaitions lancer, une série d'observations publiques, des observations non plus de grandes manifestations très très médiatisées sur le plan national, mais plutôt des manifestations sympathiques, très populaires, locales, sur Nantes, à la découverte des ciels de Nantes, à Nantes même, donc au parc du Grand Pleutreau. Là où les lumières de la ville ne nous atteignent pas directement.
Et en plus, on est un peu chez nous, c'est pas loin du siège de la Société d'Astronomie de Nantes.
Pas très loin de la mairie de Boulogne.
À côté, on a la stèle dont on vous a déjà parlé, dont on a fait les calculs en fait pour savoir quand est-ce que le soleil passerait à travers les trous. Donc, ça c'est toute une histoire. Donc là, on a décidé d'aller faire une observation publique, grand public, le...
Ça a été donc la dernière fois c'était samedi le 24 novembre.
Tout à fait.
La prochaine aura lieu le samedi 19 janvier. Donc notez, retenez bien cette date. Et il y en aura 4 ou 5 après, donc tout au long de l'année jusqu'au mois de juillet. Et nous recommencerons bien sûr l'année prochaine.
On fera tous les deux mois.
Oui, en gros. C'est calé pour l'instant. C'est calé sur les phases de la Lune. C'est-à-dire que pour initier un petit peu cette activité, pour faire découvrir le ciel aux Nantais, nous commençons par des choses, on va pas dire faciles, parce que la Lune n'est pas facile, mais c'est par ce qu'il y a de plus immédiat, et nous choisissons bien sûr des quartiers de Lune, puisque c'est là où la lumière du soleil est en rasante, c'est là qu'on voit bien les reliefs. Donc ça, on commence par la Lune, on y voit les montagnes, les cratères, et puis on continue par les planètes, il y avait Jupiter et Saturne, les étoiles.
Alors Daniel, on a eu un temps assez mitigé en fait, puisqu'on n'a plus beaucoup de monde. On a eu un ciel de Nantes, mais vraiment de Nantes. On a eu la chance d'avoir une petite éclaircie en fait.
En début de soirée,
s'est arrêté vers 22h30 à peu près, 22h30. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la périphérie de Nantes ou à d'autres endroits qui sont même pas déplacées, puisqu'en fait, on le sait, ils faisaient couvert chez eux, donc ils se sont dit, c'est pas la peine d'y aller.
Oui, alors c'est toujours un petit peu délicat. Nous, le mot d'ordre que nous diffusons, c'est que si vraiment il fait mauvais, ne vous dérangez pas. Maintenant, si c'est entre les deux, c'est mitigé, tenter le coup parce qu'il peut très bien faire une éclaircie sur Nantes alors que chez vous il fait couvert. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement il y a eu cette éclaircie de 2 heures, ce qui a permis à beaucoup de gens de mettre l'œil, pour certains pour la première fois, un télescope, et là c'est l'émotion garantie, quoi. C'est quelque chose d'assez formidable, surtout que nous avons des instruments qui sont déjà assez intéressants. On a un 360 mm, on s'exprime en diamètre, hein. C'est le diamètre de ce téléobjectif, en quelque sorte, qui est un télescope.
On va de la petite lunette de 60 jusqu'au télescope de 360 mm.
Tout à fait. Alors il y a des gens qui étaient très émus de voir par exemple Saturne dans la petite lunette, avec les anneaux, c'est tout petit, et c'est très émouvant. D'autres préfèrent les forts grossissements, on a de tout.
Alors un petit bémol, par contre, on n'a pas pu faire comme on avait prévu, hein, une découverte du ciel, c'est-à-dire présenter les constellations, puisqu'en fait on a eu le droit qu'à voir entre guillemets le zénith à peu près dégagé. Donc en fait, étant donné qu'il y avait quelques petites bandes de nuages qui passaient, c'était impossible d'avoir des constellations complètes pour essayer de les découvrir aux gens. Donc ça a été un petit peu autrement la partie observation. Bon, bien sûr, on n'a pas eu un ciel parfait, mais les gens ont pu quand même observer les astres principaux de la nuit, c'est-à-dire les Pléiades, Saturne, Jupiter et puis la Lune, quoi, déjà. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a un peu d'émotion parce qu'il y a des gens qui ont mis l'œil à l'oculaire pour la première fois. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de regarder. Surtout que Saturne, c'est un des plus beaux spectacles, je crois, parce qu'en fait, on la voit, c'est une étoile.
On a l'impression que c'est une étoile.
Quand on regarde un instrument, on voit la boule avec l'anneau, quoi.
On voit le chapeau cardinal avec les anneaux. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit ça de ses propres yeux et on découvre des choses, on voit ça en direct en quelque sorte, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire photo, etc. Alors ça, il reste ce côté que moi j'ai vécu, beaucoup de gens ont commencé comme ça, hein, ont eu un coup de foudre pour un objet céleste, c'est souvent Saturne. Enfin, j'avoue que la Lune m'a énormément, j'ai beaucoup apprécié de voir les montagnes.
C'est vrai qu'un fort grossissement, on a vraiment l'impression de se balader ou d'attendre un hélicoptère au-dessus si on pouvait y aller.
Donc c'est vraiment une des manifestations à ne pas manquer parce que c'est vraiment sympathique. On avait garni la piste d'atterrissage, ou plutôt le site d'observation semblait une piste d'atterrissage avec des petites bougies partout. Ça faisait un petit peu, comme on dit, tough.
Hein, tough, voilà.
Voilà, méga tough. Alors la prochaine, c'est le samedi 19 janvier. Et ben on rebelote, on va essayer de voir les.
Donc
les
principe,
essayer d'aller un peu plus
le
loin.
Le principe, c'est qu'on met une date, et puis s'il fait pas beau, on reportera la prochaine.
Voilà.
Et puis s'il fait beau, faut venir. Et voilà, s'il fait mitigé, il faut venir aussi. Vous avez des chances d'avoir quelques trouées, comme on dit.
Voilà.
Et puis en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc
samedi 19 janvier, on aura l'occasion de vous rappeler ça début janvier. Enfin, notez-le quand même. Samedi 19 janvier, parc du Grand Blottereau à Nantes, c'est près de Doulon. Et ça sera cette fois-ci à 20h pour avancer un petit peu comme il fallait.
Ouais, en fait, on s'est rendu qu'on avait donné rendez-vous à tout le monde à 21h.
C'est un peu tard.
Puis en fait, c'était un peu tard. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu commencer dès 20h.
Oui, on a raté une heure de ciel.
On a raté presque une heure de ciel.
De toute manière, si vous venez plus tard, vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Hein.
S'il fait beau après, normalement, c'est nous qui faisons la fermeture, ou plutôt on observe le crépuscule presque.
Alors voilà, je crois, mon cher Thierry, que cette fois-ci, exceptionnellement, nous n'avons pas de ciel du mois. Alors, on va vous faire un petit ciel du mois improvisé quand même, puisque nous l'avons vu, le ciel du mois, à la dernière. C'était le mois de novembre, mais c'était le 24 novembre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de mieux en mieux, vous verrez Saturne. Alors, il y a un truc qu'on peut vous donner, hein, c'est très simple. Si vous repérez, la Lune et Jupiter, par exemple, ce qui est facile à observer. Jupiter, il se lève.
La Lune, normalement, j'ai pas d'excuses.
La Lune, pas d'excuses. Jupiter, c'est une étoile, entre guillemets, très brillante, hein, que vous allez voir vers l'est, se lever vers l'est. Donc, vous regardez. C'est très très brillant, ça ressemble à l'étoile du berger, c'est à Vénus, hein. C'est un peu la même brillance, c'est complètement
différent. Ça s'observe actuellement le soir.
Voilà, le soir, donc vous tracez une droite entre Jupiter et la Lune, et puis toutes les planètes, si vous prolongez cette ligne, ou plutôt ce grand arc de ciel jusqu'à l'autre horizon, eh bien sur cet arc, c'est là que vous trouverez la plupart des planètes. Donc Mars se trouvera plutôt vers l'ouest, hein, vers le sud-ouest, et puis vous avez la Lune, Jupiter, Saturne, qui se trouve à peu près sur toute cette ligne-là. Cette ligne qui est le prolongement du plan de l'écliptique, c'est le plan de révolution de la Terre autour du Soleil.
En fait, toutes les planètes sont à peu près là. Donc c'est vrai que c'est important, c'est vrai qu'il n'y a pas la peine non plus de vous parler tout le temps de beaucoup de détails dans le ciel. Non. On peut vous faire un très très léger, c'est-à-dire observer les planètes, observer Saturne. Profitez-en, mais couvrez-vous bien. Alors par contre, si vous venez au ciel de Nantes, mettez des grosses chaussures, voire les après-ski. Même quand vous allez observer ou quand vous sortez, il faut savoir que ce que je dis, vous faites de l'astronomie, vous ne faites pas des 100 mètres toutes les 30 secondes. Ce qui veut dire en fait que votre corps il va baisser en température. Et puis, en fait, vous allez avoir rapidement froid, ce qui n'est rien de plus désagréable. Prenez des gants. Donc, si vous sortez, vous avez un ciel qui est magnifique, qui est un ciel d'hiver, qui est beaucoup plus beau, entre guillemets, que le ciel d'été, puisque il fait noir, donc vous avez un ciel très noir. Donc, c'est vrai que là, c'est en profiter pour regarder les constellations, essayer de les apprendre. Et puis, bien sûr, si vous avez déjà une paire de jumelles, parce qu'une paire, ça en fait deux. Des jumelles, regardez Saturne, Jupiter, la Lune, et déjà avec ça, vous avez le coin de vous rincer l'œil pendant une bonne partie de la nuit déjà.
La Lune, alors Saturne en jumelles, ça reste un petit ovale, on ne voit pas les anneaux.
Non, mais par contre, on voit que c'est pas une étoile. On arrive à voir la différence. Voilà. Par contre, Jupiter, on arrive à voir les satellites.
Oui.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'observer à des jours d'intervalle. Puisque là, si vous notez, vous faites un petit schéma.
Même des heures, en 3-4 heures, on voit déjà.
En début d'observation, en fin d'observation. Ouais. Quand vous verrez que les plans ont bougé, en fait.
On les voit bouger, on les voit tourner, finalement, autour de Jupiter.
Donc, les satellites de Jupiter, c'est Io, Europe, Ganymède, Callisto, par ordre de leur éloignement le plus faible
à étant Jupiter.
Le premier.
Ouais. À Jupiter, autour de Jupiter. Le plus proche, c'est
Io. Voilà, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Donc, avec ça, vous pouvez déjà presque dresser, faire des petits dessins pour essayer de vous habituer à observer le ciel, parce que c'est aussi l'œil est un muscle, hein, et en fait, il faut l'habituer aussi à observer le ciel pour pouvoir bien apprécier après les choses les plus importantes.
C'est surtout l'accommodation à l'observatoire.
C'est vrai que c'était une partie très importante du mois dernier, le ciel de mois. Bien sûr, on ne va pas vous parler de la conférence, on va vous en parler tout à l'heure. Une conférence, il y a eu beaucoup de public.
La conférence de Williams, on le rappellera, mais c'est vrai que c'était donc un vendredi soir, le 16 novembre. C'est la première fois d'ailleurs qu'on faisait venir un conférencier étranger, entre guillemets.
Puisqu'il est suisse.
Et non européen.
Non européen, en plus.
C'est le dernier village Goa qui résiste encore
à
la folie. Donc, ils semblent être les seuls dans toute l'Europe à avoir conservé le franc.
Ah oui?
C'est formidable, ça, quand même, de la part de nos voisins helvétiques. Et alors là, Willy Benz, je le rappellerai, était professeur à Berne, donc on l'a fait venir. Et puis là, il est un des grands spécialistes de la Lune. La salle était comble. Mm. On a eu un Bretagne, pour une fois, presque plein à craquer. Et magnifique conférence avec l'hypothèse actuellement la plus plausible en ce qui concerne la formation de la Lune.
On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était une très belle conférence, donc on est très contents. En plus, il y a eu du monde, et puis la conférence, comme toutes les conférences d'ailleurs, était très
belle. Il faut venir parce qu'elles sont toutes particulières, et on fait vraiment venir des gens, on essaie de faire venir des gens très intéressants. Et une conférence, faut-il vous le rappeler, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre dans les livres ou sur Internet ou des tas d'autres choses. Ça reste un événement, ça reste un spectacle. Parce que finalement, vous avez quelqu'un qui se met en scène, qui est là devant vous, qui s'accroche à un problème scientifique important, et vous voyez, vous avez cette chaleur de direct, en quelque sorte, du personnage qui est venu pour vous. Enfin, tout le monde s'est déplacé, on est là, c'est un peu la fête. Et ça reste. Ce qu'on apprend dans une conférence, ça peut vous suivre la vie entière. C'est une démarche qui est beaucoup plus intéressante sur le plan pédagogique que toutes les autres formules, je dirais. Donc il faut venir aux conférences. Donc la prochaine, ça sera le vendredi 14 décembre au Bretagne, avec Christian Magnan, qui est un astrophysicien, et je vous en dirai aussi quelques mots avant.
Tout à l'heure. On va commencer tout de suite justement par parler de la conférence de Willy Benz. On va pas changer de sujet. Et puis c'est Daniel Warling qui va vous présenter ça.
Alors Willy Benz, comme je l'ai dit, c'est un astronome suisse. Alors pour tout dire, il est astrophysicien, il a fait ses études d'astrophysique et de physique. Il est actuellement professeur de physique à Benz.
Berne. À Benz. Willy Benz, professeur de physique à Berne.
Ça va mal. Et il a travaillé, donc il a été longtemps aux États-Unis. Au Los Alamos Laboratory, National Laboratory, qui est donc là il a travaillé déjà sur l'origine de la Lune. Moi j'ai trouvé un article de lui de 1987 qui était déjà la pointe de ce qu'on connaissait sur cet astre à l'époque. Et il a, pour finir sur sa biographie fort intéressante, il a fait sa thèse sur la direction du professeur Mayor.
Alors, le découvreur des...
Voilà, le professeur Mayor s'est illustré par la découverte ou la co-découverte avec Queloz de 51 Pégases, c'est-à-dire un système, un des premiers, le deuxième pour tout dire, système extrasolaire. C'est-à-dire que c'était une planète en dehors du Soleil, qu'on a découverte en dehors du Soleil. C'est celle qui fait, je crois, récemment, grand bruit, où on aurait tout d'un coup découvert une atmosphère, enfin... C'est un petit peu exagéré, ces bruits médiatiques, parce
que... Non, c'est qu'il y a d'atmosphère, faut pas...
Voilà, il y a l'atmosphère, mais on s'en doutait.
Ouais, hein. Il y a rien d'événementiel, hein.
Il avait une tête d'atmosphère, cette planète.
Oui, c'est vrai que bon.
Alors, c'est Willy Benz, est venu en avion, il nous a parlé de l'origine de la Lune. Avec
et puis il restait tout le week-end en plus.
Oui, parce que les billets étaient 4 par Air France.
Voilà, pas faire de publicité.
Notre trésorier est entré. Ouais. Non, en fait, c'est l'occasion aussi pour ces gens-là qui, lorsqu'ils l'acceptent, bien sûr, c'est un jeu de rester sur Nantes tout un week-end. Alors, c'est l'occasion de découvrir.
Donc, Nantes, c'est vrai qu'on fait un peu du tourisme. On dit à les endroits où il faut aller.
Voilà, donc c'est en même temps, c'est sympathique comme tout.
Même pour eux, c'est intéressant de
donc,
découvrir.
Donc auparavant, avant d'entendre sa conférence, qui m'a...
Non, pas la conférence, l'interview.
Oui, mais avant d'entendre sa conférence à Willy Benz, moi je l'avais pas entendu quand j'ai réalisé l'interview, voilà d'accord. Ce que je voulais dire. Donc je voulais dire aussi que je connaissais le sujet un peu comme nous pouvons tous le connaître, en ayant lu son article, etc. Et en fait, la conférence a confirmé ce que je pensais, donc je suis très content. L'interview s'est donc déroulée ce vendredi après-midi, le 16 novembre, avant la conférence.
Donc par rapport à d'habitude, je te coupe 2 secondes, on a découpé un peu plus l'interview que par rapport à d'habitude. Des fois on fait des grandes plages, là on a essayé de faire des plages beaucoup plus petites, on va intervenir entre chaque plage pour pouvoir en fait vous expliquer ce qui est fait, refaire un point, reformuler, ce qui permet de bien suivre l'interview du début. C'est pas que c'est compliqué, mais
c'est pas que vous êtes bête non plus.
Ouais. Et c'est vrai que ça permet de refaire un point par rapport à ce qu'il a dit et repartir pour que tout le monde raccroche, en fait, éviter que les gens décrochent en cours de...
Voilà, ne raccrochez pas non plus.
Parce non.
Voilà. Donc vous allez entendre cette interview, on va passer la première plage. Alors, Willy Benz, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous pour cette conférence sur l'origine de la Lune. Alors la Lune, on va le rappeler, hein, c'est notre satellite. C'est le seul qu'on ait d'ailleurs. Il est à 400 000 km de la Terre. Il fait un diamètre assez important, 3000 km. C'est seulement 4 fois plus petit que la Terre. C'est-à-dire que c'est relativement à la taille de la Terre, un énorme satellite. Il est à peine plus petit que la planète Mercure. Donc on pourrait presque dire que c'est une planète. D'ailleurs, les géologues commencent à appeler planètes les satellites de Jupiter et de Saturne, qui sont à peu près, du moins pour les plus gros, de la taille de la Lune. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur l'origine de la Lune, parce qu'on a remarqué que ces roches, sa composition en roches, était à peu près celle de la Terre. Alors, on va voir ce qu'il faut en penser, qu'est-ce qu'on a pu en déduire. On a fait plusieurs hypothèses. Hein. On a pensé d'abord que la Lune était capturée par la Terre. Ensuite... qu'elle s'est peut-être formée en même temps, donc Terre et Lune qui sont à peu près sœurs jumelles dans l'histoire du système solaire, et enfin on a pensé que peut-être la Lune serait un morceau de la Terre, donc la Lune serait fille de la Terre. Parmi toutes ces hypothèses, évidemment, il faut réunir les arguments, et pour y répondre, Willy Benz, qui a beaucoup étudié ce problème depuis d'ailleurs un certain temps, on va dire un temps certain même. Alors Willy Benz, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la Lune et à son origine?
Alors, je m'intéresse à l'origine des planètes en général, du système solaire en particulier, et de la Terre, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il est difficile de considérer l'origine de la Terre sans y voir la Lune, le système Terre-Lune, en quelque sorte, qui est assez unique, comme vous l'avez dit, dans le système solaire. Et donc, si on s'intéresse à l'origine de la Terre, tout naturellement, on vient à se poser la question de l'origine de la Lune. D'ailleurs, cette question de l'origine de la Lune, comprendre l'origine de la Lune pour comprendre l'origine de la Terre, étaient en fait les motivations scientifiques du programme Apollo, il y a plus de 30 ans déjà. C'est ce qui a fait aller les gens sur la Lune, retourner des cailloux, des roches lunaires pour les analyser avec l'espoir de comprendre l'origine de la Terre.
Alors en fait, on s'est pour étudier cette partie de l'astronomie, on va dire, en réalité, on a fait comme d'ailleurs dans beaucoup de phases de l'astronomie, on a essayé de comprendre le ciel à partir de ce qu'on a observé sur Terre finalement.
Alors voilà, c'est évidemment, la Lune, c'est quelque chose qui était connu de tout temps. C'est l'objet le plus important la nuit dans le ciel. Donc évidemment, de tout temps, les gens ont vu la Lune, les gens se sont posé des questions, se sont demandé. On a commencé par en faire une déesse, évidemment. Par la suite, la science a pris le dessus, on s'est posé des questions.
Oui, alors c'est un peu court, mais je crois que c'est important.
C'est le début, c'est pour ça, c'est l'introduction en fait.
Voilà, c'est une introduction. On va voir, Willy Benz en fait va s'en expliquer davantage dans les phases suivantes. C'est l'étude de la Lune, c'est une manière de mieux comprendre la Terre. C'est un peu général en astronomie d'ailleurs, hein, mais c'est beaucoup plus direct quand ce qui concerne la Lune. Alors, ce n'est pas seulement un autre astre dans le ciel, c'est justement notre, c'est pas notre sœur jumelle, mais comme il l'a dit, le système Terre-Lune, c'est finalement un tout. Alors, on va voir qu'il y a des similitudes, il y a aussi des différences, et tout cela nous invite à mieux comprendre à la fois la formation de la Lune et aussi la formation du système solaire.
Pour résumer, en fait, c'est que l'un va pas sans l'autre.
Voilà, et ça nous amène à des questions qui dépassent la Lune elle-même. Donc on va écouter la suite.
Et en fait, la première théorie sur l'origine de la Lune, c'est date du début du XXe siècle, c'est George Darwin, le fils du naturaliste, qui a proposé que la Lune était une partie de la Terre, qui s'est séparée simplement parce que la Terre tournait tellement vite. Au départ, lors de sa formation, tournait tellement vite qu'elle était instable. Et en bout, c'est simplement séparé. On dit que peut-être l'océan Pacifique, c'est le trou qui reste de la séparation de la Lune avec la Terre. Et c'est mis en orbite, et aujourd'hui, voilà la Lune.
D'ailleurs, je crois que ça s'appuyait, peut-être pas déjà à l'époque, mais plus tard, on a trouvé des arguments qui ont montré que la période de rotation de la Lune diminuait, et par conséquent, elle devait s'éloigner. D'ailleurs, je crois qu'elle s'éloigne de la Terre, toujours.
Effectivement, les effets de marée, les marées exercées par la Lune sur la Terre, et la Terre sur la Lune, font que, petit à petit, la Terre ralentit, et la Lune s'éloigne. Alors par conséquent, on peut essayer de faire des calculs et de remonter le temps, en quelque sorte, dans un ordinateur. Et puis on s'aperçoit que la Lune était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près. Seulement, on n'arrive pas à remonter tout au début, parce que la Terre a beaucoup changé, les continents ont bougé, les océans ont changé, et tous ces effets de marée, toute cette dissipation d'énergie qui s'opère dans la Terre pour en résultat de du ralentissement de sa rotation dépend de la géométrie de la Terre. Et donc on arrive à remonter un certain nombre d'années en arrière, mais pas jusqu'au début. Donc on ne sait pas d'où est partie en fait la Lune, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est partie beaucoup plus près qu'elle n'est aujourd'hui.
Je crois qu'il y avait même une étude avec des nautiles qui ont montré que les logettes de nautiles prouvaient que la Lune avait ralenti. Donc, mais cette hypothèse de la Lune hein, comme un morceau de la Terre, donc fille de la Terre, est-ce que elle est actuellement, est-ce qu'on peut encore sérieusement la valider, enfin essayer de la valider?
Alors, il y a un gros problème avec cette théorie, c'est qu'il y a quelque chose dans la nature qu'on appelle le moment cinétique. Le moment cinétique, si vous voulez, c'est en quelque sorte une mesure de la quantité de rotation qui est dans un corps ou dans un système. Et cette grandeur-là, elle est conservée. Elle ne varie pas au cours du temps. Et en fait, pour que la Lune soit éjectée de la Terre à la suite de la rotation, ça demande que la quantité de moment cinétique est beaucoup plus élevée que celle qu'on observe dans le système Terre-Lune aujourd'hui. 4 fois plus. Par conséquent, si on voulait faire la Lune à la suite d'une éjection de la Terre, il faudrait se poser la question où est passé tout ce moment cinétique qui en principe doit être conservé. Et ça, on n'a jamais réussi à l'expliquer, ce qui fait que cette théorie a petit été abandonnée.
Oui, c'est-à-dire en fait le système Terre-Lune a perdu du moment cinétique depuis sa formation.
Voilà, un facteur 4 par rapport à ce qu'il aurait dû avoir si la Terre avait été effectivement instable rotationnellement et éjecte l'équivalent d'une Lune dans son jeune âge.
Alors, on va vous apporter une petite précision sur cette notion de moment cinétique. C'est vrai que Willy Benz l'explique, il l'a d'ailleurs très bien expliqué à sa conférence, et je vais reprendre en partie ses propres termes. Pour ceux qui ne sont pas physiciens, il y a une comparaison qui est toujours invoquée, qui est celle du patineur. Et d'ailleurs, on fait l'expérience au Palais de la Découverte. Bon, ben, tout le monde sait qu'un patineur, lorsqu'il se lance, il étend les bras, et lorsqu'il les ramène le long de son corps, il tourne de plus en plus vite. Alors, c'est pas lui qui tourne de plus en plus vite, c'est simplement que le moment cinétique se conserve. C'est-à-dire, le moment cinétique, c'est un peu le produit, c'est la multiplication entre le poids qu'il y a le long des bras et par la distance des bras, le bras de levier. Et lorsqu'on le ramène, ce bras de levier est moins important, mais la valeur reste la même. Et pour que la valeur reste la même, si le poids du bois n'augmente pas, ni sa distance diminue, ben, ça va être quelque chose d'autre qui va augmenter pour que l'ensemble reste constant, c'est la rotation du corps. On a fait l'expérience au Palais de la Découverte avec des enfants. C'est effectivement, quand on les met sur un tabouret, on leur donne un poids de 3 kilos dans chaque main, on leur demande d'étendre les bras, on les pousse, ils se mettent à tourner, après on leur dit, ramenez vos bras au long du corps. Là, c'est souvent la surprise, parce que tout d'un coup, le tabouret se met à tourner beaucoup plus vite, et les gens ont du mal à comprendre, parce que c'est une notion physique qui n'est pas intuitive, qu'on ne vit pas tous les jours. C'est pour ça qu'elle n'est pas intuitive. Mais elle est néanmoins réelle. C'est ce qui explique aussi pourquoi, par exemple, les étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes tournent de plus en plus vite jusqu'à tourner comme un pulsar. C'est-à-dire avec une fraction de seconde de rotation. Donc, voilà pour le moment cinétique. Alors, ce moment cinétique, ça veut dire qu'au moment, si la Terre, elle tourne sur elle-même, vous le savez. Donc, si la Lune est éjectée par la Terre, si c'est un morceau de la Terre, eh bien, le moment cinétique total du système Terre-Lune, il va rester le même que celui que la Terre avait.
C'est un peu le principe, en fait, que si vous faites un gâteau ou si vous touillez quelque chose très très vite, ou vous montez vos blancs en neige, et en fait, si vous faites tourner trop vite, il y a des bouts qui s'échappent dans votre cuisine, vous en mettez partout. C'est un peu ça, en fait.
C'est pas vraiment cinétique, ça.
Non, c'est pas vraiment cinétique. La théorie de la séparation, c'est en fait que, avec la vitesse et la stabilité, il y aurait des bouts de la Terre qui seraient échappés comme...
C'est ça, effectivement, c'est-à-dire qu'au moment où la Terre s'est refroidie, elle aurait perdu des bouts qui étaient encore assez visqueux ou liquides par la force centrifuge. Mais cela dit, à ce moment-là, les deux bouts, une fois qu'ils sont sous forme de deux bouts, la somme des moments cinétiques de la Terre et de la Lune, ça doit rester la même chose que ce qu'il y avait avant.
Ça doit être égal. Et c'est ce qui explique le problème, en fait, c'est qu'il manque un facteur 4. C'est-à-dire, en fait, que pour que, entre guillemets, la boue de la Terre s'échappe, ou les morceaux de la Terre puissent s'échapper, il faut qu'il y ait une certaine vitesse. Et actuellement, en fait, on est beaucoup trop faible.
Non, mais ça aurait pu ralentir. Mais ce qui est la vitesse actuelle, plus celle de la Lune, plus la distance, etc., ça ne donne pas le moment cinétique qu'on aurait dû avoir.
Voilà. C'est en fait, ça s'éjecte. Et il nous manque de du moment cinétique. Et en fait, on n'a aucune explication pour le combler.
Alors, c'est ce qui m'a amené à la deuxième partie de mon propos, là, tout de suite, c'est que on voit tout de suite l'importance d'une théorie. C'est-à-dire qu'il y a l'observation, et il y a la théorie. C'est ce que, normalement, ce que développera aussi Christian Magnan dans sa conférence le 14 décembre. Alors, que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une bonne théorie, les observations, elles doivent coller avec cette théorie. C'est pas les observations qui entraînent la théorie. Très souvent, à partir des observations, on bâtit une théorie. Et après, cette théorie, elle est beaucoup plus vraie que ce qu'on observe. C'est-à-dire que si ce qu'on observe ne colle pas, il faut chercher une autre explication.
Hein? Pour résumer, en fait, la théorie de la séparation, par perte d'un moment cinétique, donc on n'a aucune explication, pour nous, en fait, pour les astronomes, on dit ça ne colle pas, ça peut pas être, la Lune n'a pas pu se former avec un bout de la Terre qui serait échappé à cause de la force centrifuge.
Voilà, exactement.
Puisqu'en fait, on a une perte de vitesse
et moment cinétique. C'est en contradiction avec la théorie physique, donc il faut l'abandonner. Hein, donc on va écouter la suite.
On change de théorie, alors.
On va voir la deuxième théorie.
Donc, puisque cette hypothèse de la Lune, qui est un morceau de la Terre, n'a pas pu être retenue, on s'est tourné vers d'autres hypothèses. Quelles sont-elles?
Alors, il y a une autre hypothèse, c'est celle de la formation simultanée, de la co-accrétion, si vous voulez bien. C'est la Lune et la Terre se forment comme des sœurs jumelles à partir du même nuage de matière interplanétaire. Et puis, on forme deux corps en même temps, si vous voulez. Le problème avec cette théorie, c'est que, simplement, on peut se poser la question pourquoi la Terre a hérité d'un noyau de fer et la Lune n'en a pas. Alors, il faut imaginer un mécanisme qui opère quelque part en orbite lors de la formation, qui va se mettre à trier les éléments. Le fer va à gauche, les roches vont à droite, forment la Lune, et puis on interdit au fer d'aller à droite. Et là, de nouveau, on a conceptuellement des problèmes à imaginer un mécanisme suffisamment efficace pour assurer ce tri directement lors de la formation.
Alors, on parle, je crois, dans un article que vous aviez écrit en 1987, on parle d'un tri chimique, on parle d'un processus d'accrétion différentielle, comme on va dire, par un système de chimique où les éléments seraient plutôt attirés par certains éléments plutôt que d'autres, et ce qui fait que d'un côté on aurait la Lune, la future Lune, de l'autre côté la future Terre.
Oui, alors disons, le mécanisme auquel on pense, c'est plutôt un tri aérodynamique, parce qu'il doit s'opérer avant que la planète soit terminée. C'est au moment de l'assemblage des morceaux qui vont devenir la planète. Le tri chimique s'opère par la suite, au moment où le fer, en fait, par le fait que sa densité est supérieure à celle des roches, s'écoule vers le milieu de la planète, ramassant avec lui les éléments qui aiment en quelque sorte se dissoudre dans le fer, qui sont solubles dans le fer, les éléments dits sidérophiles. Ceux-là, ils partent avec le fer et vont se mettre dans le noyau de la planète. Mais au départ, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas de fer. Le noyau de la Lune, on ne connaît pas exactement sa taille, mais on a une borne supérieure, c'est moins de 3 à 5 % de la masse de la Lune. Par comparaison, le noyau de la Terre, c'est 32 %. Donc vous voyez, il y a une très très grosse différence. Donc ça veut dire que quelque part, on a empêché ce fer d'aller se joindre à la Lune. Et donc le résultat, c'est un noyau anormalement petit.
Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments, de critères qui plaident en défaveur de cette hypothèse, on va dire, qui viennent finalement, elle n'est pas tellement supportée, cette hypothèse de la Lune, sœur de la Terre.
Voilà, c'est des arguments géochimiques qui nous montrent que c'est difficile à réaliser, et puis les arguments physiques, simplement, de trouver un mécanisme de tri qui serait basé simplement sur la différence de densité, par exemple, entre des roches et du fer, des différences peut-être de propriétés chimiques de ces éléments, mais au moment de l'assemblage des matières.
Et je crois que cette hypothèse, en fait, avait été émise non pas pour avoir une de plus par rapport à celle qui existait, mais c'est parce que on est toujours intrigué par la taille relativement grande de la Lune, et on a plutôt l'impression de voir un système double, un peu comme Pluton et Charon,
ou tout simplement des étoiles doubles. Il y a beaucoup d'étoiles binaires où les masses, le rapport des masses entre les deux objets est relativement proche l'un de l'autre. Ils sont comparables. Effectivement, la Lune et la Terre sont une exception dans le système solaire. C'est un caractère unique, une propriété unique, à part Pluton et Charon. Mais toutes les autres lunes, en fait, sont beaucoup plus petites comparées à leur planète que la Lune comparée à la Terre.
Bien, alors c'était la deuxième hypothèse de formation de la Lune. La Lune est-elle donc question, la Lune est-elle sœur de la Terre? C'est-à-dire, se sont-elles formées, la Terre et la Lune, en même temps? Ce qu'on appelle la co-accrétion, puisque vous savez que toutes les planètes sont nées par accrétion. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que vous ramassez sur votre orbite tous les débris qui traînent et vous grossissez. C'est ça l'accrétion.
Il faut savoir en fait que les planètes à l'époque n'étaient pas solides. On pourrait
les
imaginer comme une boule de magma en fusion. Et ça, quand vous prenez de la lave, vous pouvez jeter des cailloux dans la lave, en fait, votre volume de lave va augmenter. Voilà. Donc c'est un peu le principe, c'est en fait vous avez une espèce de pâte immonde.
C'est des boules de pâte à modeler chaude.
Voilà, la pâte à modeler chaude. Donc en fait, c'est vrai que toutes les espèces de petites boulettes de pâte à modeler viennent s'agglutiner sur la grosse. Donc, par accrétion.
Là, c'est le mécanisme de l'accrétion.
Donc alors, la théorie, c'est est-ce que la Lune et la Terre ont pu se créer en même temps l'une à côté de l'autre?
Oui, parce que c'est séduisant, étant donné que, comme on l'a rappelé, enfin comme Bill Evans l'a rappelé à la fin de cette partie, Terre et Lune ont à peu près les mêmes masses, enfin à peu près sont dans la même échelle de masse. C'est-à-dire que la Lune est simplement 4 fois plus petite que la Terre, ce qui est rien du tout.
Il faut savoir, par exemple, qu'on prend Titan, il fait 4000 km de diamètre, et Saturne en fait 120 000.
Voilà, le rapport est complètement différent.
Donc nous, en fait, la Lune, le rapport est vraiment totalement différent, il est très faible, donc c'est vrai qu'on peut dire...
Oui, vas-y.
Peut-être qu'ils sont formés ensemble, étant donné qu'ils sont similaires. Voilà.
Même les planètes comme Mars ont deux satellites, mais qui sont très très petits par rapport à Mars. C'est un cas unique, le système Terre-Lune. Enfin non, c'est pas un cas unique, pardon. Il y a le système Pluton-Charon.
Pluton-Charon, c'est peut-être plus la théorie d'avoir deux espèces de satellites.
Tout à fait. Là, c'est probablement des astres qui ont été capturés par le système solaire, donc on n'est pas dans la même configuration. Voilà. Alors donc, cette hypothèse de la Lune, fille de la Terre, sœur de la Terre.
Tu t'en sortiras jamais,
vas-y. L'histoire de famille et moi, ça fait deux. Donc c'est séduisant, mais ça ne colle pas non plus. Parce que finalement...
En fait, c'est le fer qui nous énerve.
C'est le fer qui nous énerve. Donc il y a des épinards dans la Lune.
Ouais.
Donc, la co-accrétion suppose que Terre et Lune ont à peu près la même composition. Or, elles n'ont
puisqu'en
pas
fait,
tout à fait la même composition.
Co-accrétion, ça veut dire qu'elles ont été créées dans le même endroit. Dans le même endroit.
Les boules de neige sont formées sur le même pré.
Voilà. Et en fait, il faut... Donc, ce qui sont formés au même endroit, ils ont la même structure.
Ils ont les mêmes éléments chimiques. Etc. Alors, il y a un problème d'éléments chimiques. Il y a un peu plus, je crois, ou un peu moins de fer dans la Lune.
Il y a
trop peu.
En fait, il y a 3% de fer dans la Lune au niveau du noyau, à la proportion entre le noyau et la planète. Et en fait, sur la Terre, je crois que c'est 30%.
Voilà,
donc en fait, il y a un problème, la Terre a trop de fer par rapport à la Lune.
Donc il faut imaginer, si ça doit marcher, la co-accrétion, il faut expliquer le mécanisme, pourquoi la Lune, finalement, elle a accrété moins de fer que la Terre, avant même de se former. Donc ça veut dire qu'il y avait ce qu'il appelle un tri aérodynamique, c'est-à-dire aéro. C'est un tri cosmique entre les éléments qui font que la Terre elle attire un peu plus le fer que la Lune.
C'est un peu comme les théories précédentes de la séparation, c'est-à-dire que les théories précédentes, on avait un problème de moment cinétique. On n'a pas d'explication pour trouver la perte de ce moment-là, donc on dit la théorie est pas bonne.
Et là, actuellement, c'est la théorie qui nous manque.
C'est on a du fer qui va vers la Terre et va pas vers la Lune. On n'a pas de théorie ou de phénomène physique pour l'instant qui nous explique pourquoi le fer irait plus vers la Terre que vers la Lune. Donc on peut quasiment dire que cette théorie-là tombe aussi.
Alors il y a... Effectivement, il en parle, on aurait pu se dire, il y a un mécanisme de différenciation des roches.
Voilà, autrement, le mécanisme serait de trouver un système. Pourquoi la
différenciation, c'est toujours qu'un tri. Un tri chimique à partir de ce qui existe déjà. S'il y a 3% de fer sur la Lune, il y a 3% au point qu'il soit trié ou pas trié, c'est pas ça qui va augmenter sa quantité relative. Donc, la deuxième hypothèse, ça marche pas non plus. Terre et Lune ne se sont probablement pas formées comme on le supposait à partir des mêmes morceaux de pâte à modeler. Hein. Donc on va entendre la troisième hypothèse.
Alors il reste évidemment l'hypothèse que vous allez vous développer, parce que c'est celle que non seulement vous allez défendre, mais en plus qui est supportée par, je suppose, beaucoup plus de données, c'est celle d'un impact géant. Est-ce que vous voulez nous l'expliquer ?
Voilà, alors on s'imagine, d'ailleurs si on fait un petit retour en arrière au moment de la formation de la Terre, on s'imagine d'une manière générale que les planètes grandissent, croissent par accrétion, par collision, à la suite de collisions. Les collisions amènent les corps les uns vers les autres, une collision, et le gros objet avale, si vous voulez, ou accrète le petit. Et du coup, les planètes croissent par collision. Donc les collisions, ce n'est pas un effet... extraordinaire dans les débuts du système solaire, c'est le pain quotidien en fait. C'est par les mécanismes de collision que les planètes ont atteint la taille qu'elles ont aujourd'hui. On a commencé par des poussières de l'ordre du micron pour arriver à des planètes aussi grosses que la Terre, Vénus, etc. par collision. C'est vraiment une croissance collisionnelle de ces objets. Et on pense qu'une des collisions, parmi toutes les myriades de collisions qui ont donné naissance à la Terre, une des collisions qui avait la géométrie appropriée, qui est arrivée au bon moment dans l'histoire de la Terre, a donné naissance à la Lune, simplement par le fait que les débris qui sont éjectés lors de la collision se mettent en orbite, et ces débris, si vous voulez, en orbite autour de la Terre, se réassemblent, un petit peu comme au départ s'étaient assemblées les planètes autour du Soleil, à partir d'un disque de roche, de matière. La même chose, les débris qui ont suivi la collision se sont mis en orbite autour de la Lune, et de ces débris, une Lune est née, relativement rapidement si on en croit les modèles numériques.
Donc en fait là c'était la troisième théorie, où en fait c'était l'impact géant, et en fait Willy Benz essayait...
C'est pas encore un impact géant,
c'est l'impact.
Théorie de l'impact.
Et en fait il dit avec les modèles numériques, il faut qu'on arrive pour l'instant, cette théorie-là pose aussi des problèmes, puisqu'en fait, s'il y a un impact, c'est-à-dire qu'il y a des débris partout, il faut encore qu'on arrive à les agglutiner ensemble pour former une Lune.
Oui, alors il y a deux séries d'écueils à cette théorie, évidemment. Alors, d'abord, il faut rappeler que j'avais le casque sur...
Vas-y, continue.
...a démarré. Quand on a une collision comme ça, c'est... En fait... on fait partir des débris. Ça, c'est bien. Ça, c'est la première partie. Effectivement, si des débris partent de la Terre suite à une collision avec un autre objet, eh bien, ça peut former un nouvel objet. Encore faut-il qu'il se réagglomère, comme tu l'as dit, sous la forme d'un nouvel objet.
On pourrait avoir, en fait, un anneau comme on a à Saturne.
Alors, il y a juste... Alors, bon, parmi les collisions, il faut distinguer les petites et les grosses. Alors, les petites collisions, hein, de l'ordre du micron, des particules qui vont du micron à quelques centimètres, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça fait grossir la boule de neige. Hein, ça la fait la perturber.
C'est la pâte à modeler,
c'est gentil, ça, elle grossit tout doucement. Et pourquoi de temps en temps des grosses collisions? Alors, il faut savoir qu'il y a un mécanisme très simple à comprendre. Vous êtes dans le cosmos et là, il n'y a pas de rail, il n'y a rien. Vous flottez dans l'espace. Et quand il y a une petite collision, les objets s'éloignent gentiment l'un de l'autre, ils arrivent sur des orbites qui vont se croiser, et plus ils viennent de loin, plus quand ils se croisent, plus ça fait mal. À un moment donné, les collisions redeviennent importantes, alors que les objets sont déjà constitués. Ce qui a pour effet de les faire nouveau éclater, enfin éclater en tout cas une partie. Alors, donc c'est un peu le mécanisme. Alors maintenant, comme tu l'as dit, ces débris forment potentiellement, éventuellement une lune, mais encore faut-il que, à ce moment-là, ils soient pas éparpillés trop loin, parce qu'on a toujours ce problème de moment cinétique. S'il y a un gros impact, c'est-à-dire que le moment cinétique est important, et ces débris, après, ils vont aller se coltiner un peu partout, et il y a aucune raison qu'ils se réassemblent. C'est un peu comme si vous tirez avec une balle de fusil dans un pré, et vous voyez un gros tas de poussière qui s'en va. Bon, la poussière, elle est éparpillée partout.
Voilà,
c'est un autre écueil. Alors évidemment, le problème, c'est que la Lune, il faut bien qu'elle se soit formée. Hein. On va dire que si, à un moment donné, la Lune, c'est un ensemble, c'est comme une Terre, c'est comme une planète, c'est par accrétion, ces morceaux viennent d'eau. Il y a beaucoup d'arguments qui font que la Lune est quand même très proche de la Terre sur le plan de la composition, malgré les écueils qu'on a soulevés dans l'une et l'autre théorie. Pour faire qu'elle n'est pas à 100% exacte, mais quelque part, il y a quelque chose qui rapproche la Terre et la Lune. C'est pas non plus un objet qui... Alors peut-être, oui, on peut toujours imaginer que c'est un objet qui est venu de plus loin. Avant de faire la synthèse, j'ai oublié qu'il y avait encore une quatrième théorie, et cette théorie-là, c'est celle qu'on vient d'évoquer. Pourquoi, à ce moment-là, la Lune ne serait-elle pas venue de très loin et la Terre l'aurait-elle capturée, hein? C'est ce qu'on va entendre.
On s'imaginait qu'on arrivait à capturer la Lune intacte, telle qu'elle. La Lune était un corps perdu dans le système solaire, quelque part, passe assez près de la Terre, trouve l'environnement agréable et décide de rester dans les environs de la Terre. Le problème avec cette théorie, on n'est jamais arrivé à régler, c'est comment est-ce qu'on freine cet objet? Comment, vous savez, si on va avec une sonde ou un vaisseau spatial visiter une autre planète, comme on a été sur la Lune, sur Jupiter, etc., quand on arrive là-bas, il faut freiner. On allume les rétrofusées, on freine pour s'arrêter. Sinon, on passe tout droit. Eh bien, un objet qui se promène dans le système solaire, qui passe près de la Terre, il n'a pas de fusée, comment est-ce qu'il freine? Et le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à freiner un objet de la taille de la Lune lorsqu'il passe près de la Terre? De nouveau, c'est des effets de marée qui peuvent dissiper l'énergie, mais le temps est très court et c'est extrêmement difficile.
Alors la capture, oui.
C'est la dernière théorie qui nous
c'était
reste.
C'était la dernière, oui. J'ai failli d'ailleurs la chanter. Parce que tellement... moi, quand j'étais petit, je croyais beaucoup à cette théorie-là. Je me dis, mais c'est évident. On passe près de la Terre, et puis poum, la Terre nous emmène dans son balai, comme le capitaine Haddock est entraîné par l'astéroïde. Oui, mais problème, un truc comme la Lune... Ça va assez vite, c'est très lourd, ça a une inertie très importante. Et comme a dit Willy Benz, pour que ce soit capturé par la Terre, qui est quand même relativement petite, hein, si c'était Jupiter, la Terre, encore une lune passant à côté, elle finit par se mettre en orbite, parce que Jupiter, attention, ça attire avec une autre puissance que la Terre. Mais la Terre, qu'est-ce qui va se passer à tout prendre, la lune va être un peu incurvée sur sa trajectoire, point à la ligne. Donc pour qu'elle soit mise en orbite, il faut, comme l'a dit Benz, imaginer un système de freinage.
Donc c'est ce qu'on Maël parlera tout à l'heure, ça sera quand dans les actus, nous avons les sondes qui se freinent autour des planètes pour voilà. Pouvoir se mettre en orbite. Donc en fait, on les envoie assez rapidement, on mettrait trop de temps, puis après, il faut qu'on trouve des systèmes voilà. Pour les freiner. Donc là, notre problème, c'est que la Lune, à la rigueur, l'hypothèse, c'est elle arrive. Par contre, si elle arrive, il faut qu'elle freine. Et comment on fait pour freiner? C'est bien le problème.
Voilà. Alors, donc, si on se... commence un premier petit résumé à mi-chemin, enfin, de cette interview.
On a quatre théories.
On a quatre grandes hypothèses Première hypothèse, la Lune file de la Terre, c'est-à-dire un mécanisme d'éjection, la Lune serait née d'un morceau de la Terre, pour problème de moment cinétique. Bon. Deuxième théorie, la Lune est sœur de la Terre, co-accrétion, là on a un problème de composition, il y a un peu trop peu de fer sur la Lune. Troisième théorie,
un impact.
La collision, l'impact, le problème, comment les morceaux de Lune se rassemblent.
Voilà.
Et encore un problème non cinétique. Quatrième hypothèse, la capture. Là, on vient de voir, faudrait que la Lune dispose de rétrofusées. Alors, qu'en est-il de tout cela? Parce qu'il faut quand même, mon cher Thierry, que la Lune se soit formée.
Malheureusement, on l'a, donc il faut mieux qu'on ait une raison.
Elle est là, elle ressemble beaucoup à la Terre. Il y a quelque chose à tirer de tout ça. C'est la synthèse que nous entendrons tout à l'heure. Et je crois que
après
la pause musicale.
C'était un extrait de Rendez-vous avec la Lune, interprété par Aurore Borealis. On parle de la Lune, justement.
Oui. Aurore Borealis, c'est joli, comment vous appelez.
C'est joli. Donc vous êtes en direct sur Alternante avec la Société d'Astronomie de Nantes pour Pulsan. Et actuellement, on essaye de trouver une raison simple, ou plutôt une vraie raison, comment la Lune est arrivée à côté de nous, ou plutôt comment elle s'est formée.
Comment la Lune s'est formée, hein.
Et ça, c'est en rapport avec la conférence qu'a donnée Willy Benz le 16 novembre dernier, à Nantes. Il a parlé de l'origine de la Lune.
De la Lune, et avant cela, donc, on a réalisé cette interview, dont vous avez entendu précédemment quatre extraits, qui étaient relatifs chacun à l'une des quatre théories ou hypothèses sur la Lune.
Va vous rappeler dans les secondes qui suivent.
Qu'on vous rappelle en deux mots. Première hypothèse, la Lune est-elle fille de la Terre? C'est-à-dire, est-ce que c'est un morceau de la Terre? Ça marche pas, il y a un petit problème. Deuxième hypothèse.
Donc, on va peut-être le rappeler, simplement, c'est un problème de vitesse. C'est-à-dire qu'en
fait. Si la Lune avait été éjectée, elle aurait été trop vite. Et actuellement, le moment cinétique qu'on mesure du couple Terre-Lune, il est beaucoup trop petit pour, parce que normalement, ça se conserve, ça. Il aurait dû être conservé depuis le début. Donc, il y a un problème sur cette hypothèse-là. Deuxième hypothèse, la Lune est-elle sœur de la Terre? C'est-à-dire, s'est-elle formée en même temps à partir des mêmes matériaux? C'est ce qu'on appelle le mécanisme de co-accrétion. Il y a un problème de composition chimique. La Lune contient pas assez de fer.
S'ils ont été créés en même temps, ils sont sortis de la même soupe. Et en fait, dans ce cas-là, ils vont avoir à peu près la même composition.
Les mêmes grumeaux.
Les grumeaux.
Quand tu sers plusieurs assiettes de soupe, ça dépend si tu prends
au-dessus. Quand tu mélanges bien, normalement, tu as les mêmes choses. Voilà. Et là, en fait, il y a complètement...
Mais dans l'espace, il n'y a pas la gravité. Donc
il n'y a pas de douche.
Les grumeaux sont partout. Voilà. Il n'y a pas de douche. Troisième hypothèse, la collision. C'est-à-dire que la Lune est née de l'impact de la Terre avec... Cette fois-ci, c'est pas un morceau de la Terre, c'est pas un morceau, un gros morceau, ce serait un ensemble de petits morceaux qui ont été éparpillés lors d'une collision.
Et dernière hypothèse, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'explication comment les morceaux
sont mis ensemble.
Voilà.
Quatrième hypothèse, donc la dernière qui était évoquée, la capture. C'est-à-dire que la Lune serait venue à proximité de la Terre, aurait été entraînée dans son sillage, serait tournée en orbite autour de la Terre. Problème, elle n'a pas rétrofusé, donc elle n'a pas pu être freinée. Si ça avait été le cas, elle serait repartie dans l'espace. Hein, comme les satellites, ils tournent autour, enfin, quand on envoie quelque chose autour de Vénus, et qui, quand on l'envoie assez vite, et ben, il passe à côté de Vénus, et il est simplement incurvé. Alors, donc, devant ces quatre hypothèses, on est quand même perplexe, parce qu'il faut bien que la Lune soit née, elle est là, elle a la composition chimique est quand même assez proche de la Terre. Donc, il y a quand même une relation entre la Terre et la Lune, Alors, parmi toutes ces quatre hypothèses, il y a, on va voir, dans chacune, il y a quelque chose de bon. Et c'est ce qu'on verra, donc, à la fin de la... Comment dirais-je?
À la fin de l'interview, dans la suite de l'interview, oui.
Oui, dans la suite, il m'a troublé. Non, c'était bien. Donc, vous allez entendre donc la suite de cette interview de Willy Benz, astrophysicien, professeur de physique à l'université de Berne, que nous avons invité pour une conférence le 14 novembre sur l'origine de la Lune. Voici la suite de cette interview.
La suite. Voilà. Il nous manquait la musique.
C'est quoi cette musique?
La musique du thème. C'est pas grave, notre technicien
de la mise.
C'est ta
faute. L'animateur.
C'est toi qui m'as parlé
avant. Moi, je suis le penseur.
Quiche, cancange. Allez, notre technicien préféré, Frédéric Cavagnier, va nous envoyer la suite de l'interview.
Par conséquent, cette théorie, si vous voulez, a évolué un peu dans la théorie de la collision, où là, le freinage est évident, on a une collision. Il n'y a rien de plus efficace pour en fait freiner le corps. Et ensuite, bon, il s'agissait de de prouver ou de démontrer qu'il est possible de réaccumuler les débris. Parce qu'évidemment, dans la capture, dans l'hypothèse où on freine le corps, on a un corps intact, on n'a rien à reconstruire. Tandis que dans l'hypothèse de la collision, ben, il faut réassembler les débris, il faut faire une lune de nouveau, un corps. Et évidemment, alors ça se fait, il y a des pertes. On n'imagine pas que c'est un corps de la taille de la Lune qui a percuté la Terre. Il faut un corps en gros 10 fois plus grand, la taille de Mars, c'est un peu la taille minimum. Donc il faut s'imaginer, cette collision, c'est quelque chose d'extraordinaire, pas au niveau de l'histoire de la Terre.
On peut rappeler que Mars fait 7000 km de diamètre, donc c'est à peu près un objet qui aurait la moitié de la taille de la Terre, c'est assez gros.
Ça représente la moitié en masse, ça fait à peu près 14%, 13-14% de la masse de la Terre. Donc c'est vraiment, vraiment un gros objet. C'est une catastrophe pour la Terre, seulement, disons, faut revenir toujours, se mettre dans l'ambiance du moment. La Terre croît par collision, ce n'est qu'une collision parmi d'autres. Il s'avère que celle-là, elle est grosse. Il n'y a probablement pas eu des millions de grosses collisions comme ça, mais on pense qu'il y en a eu plusieurs. Quelques-unes de ces collisions, par exemple, peuvent détruire une planète. On pense que Mercure, par exemple, pourrait avoir été détruite plusieurs fois avant de se retrouver à l'endroit et avec la taille que la planète a aujourd'hui. La Terre étant suffisamment grosse, c'était peut-être plus protégée d'un impact catastrophique où on détruit la Terre. Mais dans l'ensemble, ben voilà, on a réussi, enfin la nature a réussi à faire une lune à l'aide de quelque chose de très catastrophique.
Donc là, on parle d'une capture, en fait, l'idée de la capture, en fait, qui s'est transformée les deux théories, en fait, seraient plus assemblées.
Ça serait plutôt impact capture que capture impact.
Non, c'est l'idée de la capture au départ a posé un problème. Donc en fait, ils se sont dit, on va essayer de voir si l'impact peut pas résoudre le problème de ce freinage d'objets. Et c'est là qu'il dit, en fait, le mieux pour freiner, c'est que on tape dedans. Donc en fait, l'objet qui vient d'extérieur, vu qu'on n'arrive pas à le freiner. On va lui faire rencontrer la Terre.
Alors, on a l'air de dire, c'est un peu la même hypothèse que tout à l'heure, on avait l'hypothèse de la collision, hein. Mais c'est pas tout à fait la même hypothèse. C'est-à-dire que l'hypothèse de la collision, là, les premières qui ont été mises tout à l'heure, c'était des objets qui circulaient sur les orbites parallèles, dans le même sens. Là, c'est un objet qui est venu carrément en travers, ou que, par exemple,
sur c'est des petites collisions qui créent en fait de la poussière autour et puis la rafle de l'agglutiné. Alors que là, c'est la grosse collision.
Quoi. Là, c'est l'impact qui va expliquer. Alors, on peut voir ça comme un mécanisme de freinage d'un astre qui viendrait de très loin. Hein, et puis après, donc, il y a des morceaux qui sont mis en orbite. Ça peut expliquer la mise en orbite. Et alors, l'autre, ça serait qu'effectivement Mais ça, c'est un peu la synthèse, c'est la première tentative de synthétiser un petit peu des hypothèses précédentes, la capture et l'impact. Hein. Donc voilà. C'est l'hypothèse de la capture-impact. Alors, c'est une première approche qui va donner l'idée, finalement, de... Je pense que là, Willy Benz va nous donner l'hypothèse qui est actuellement donc la solution du fameux problème, qui va être la synthèse entre toutes les théories, enfin toutes les hypothèses qui ont été émises précédemment et dont chacune, on le rappelle, avait un défaut. Donc on va écouter cette synthèse par Willy Benz.
Alors, ces impacts géants, on peut rappeler que vous aviez évoqué tout à l'heure le pain quotidien, qui était les impacts que subissaient les planètes il y a plus de 4 milliards d'années, hein, lorsqu'il y avait justement beaucoup de débris sur les orbites des planètes. Et au début, ces impacts se font entre objets qui sont à peu près sur des orbites parallèles, et plus ils se cognent, plus ils s'éloignent, et quand ils se recognent, c'est peut-être là l'origine de ces impacts géants. Ou est-ce qu'il y a des objets qui croisent carrément les orbites qui viennent de n'importe où ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où les objets acquièrent une certaine masse, alors ils peuvent se perturber les uns les autres simplement par la gravité. Et la distance à laquelle ils sont capables de perturber les objets devient de plus en plus grande. Par exemple, dans le système solaire aujourd'hui, Jupiter est capable de perturber les objets dans la ceinture des astéroïdes. Donc des planètes de grosse masse arrivent à perturber d'autres objets qui ne sont pas forcément juste à côté, mais à des distances relativement grandes. Alors au moment où les planètes, si vous voulez, avaient avalé tous les objets qui se trouvaient dans un voisinage immédiat, en espèce d'aspirateur qui a nettoyé vraiment une zone autour du Soleil qui correspond à l'orbite de l'objet, ces objets ont atteint une masse suffisante pour commencer à perturber les objets qui étaient plus loin. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'aller en orbite circulaire autour du Soleil, l'orbite devient excentrique, c'est-à-dire qu'elle est déformée, elle est allongée. Donc, plus l'orbite est excentrique, plus elle balaye en quelque sorte une distance importante autour du Soleil. Et en balayant ça, forcément, il y a des collisions, parce qu'on balaye la même région. Il y a deux objets, balayent la même région, et les probabilités de collision deviennent importantes. Plus c'est, les régions communes sont importantes, les orbites se croisent. C'est là l'idée, c'est que ces perturbations gravitationnelles permettent aux orbites de se croiser, et du coup rendent possibles les collisions. Et plus les objets sont gros, plus ces perturbations sont à longue distance, et plus les chances de se croiser sont importantes. Le corollaire, c'est que plus ces perturbations sont grandes, plus les vitesses relatives sont grandes. Évidemment, si on peut imaginer deux objets qui tournent relativement près de l'autre, sur des orbites presque parallèles, leur vitesse relative est relativement petite. La collision est, entre guillemets, douce. Par contre, si un objet qui vient de très loin, sur une orbite très excentrique, qui arrive comme ça, à toute allure, les vitesses relatives sont grandes. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce de jeu dangereux qu'on joue, là, parce qu'on marche un petit peu au bord du gouffre, entre soit les vitesses relatives sont trop faibles, tout tourne sur des orbites circulaires, et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de croissance des planètes, parce qu'il n'y a pas de collision, il n'y a pas de planète, alors ça ne va pas. Ou bien elles sont sur des orbites très excentriques, et à ce moment-là, les collisions sont tellement violentes qu'on détruit tout ce qu'on a construit. Donc il y a une espèce de marche délicate ici, et il s'avère que la nature, la physique, est faite que la nature choisit ce chemin au bord des deux précipices, si vous voulez, et qu'on est arrivé à choisir ce chemin de manière naturelle. En fait, c'est les lois de la physique qui l'ont trouvé, enfin, qui trouvent ce chemin.
Donc là, en fait, c'était il expliquait en fait qu'on avait le problème du que si on va pas assez vite, en fait, il y a pas de collision. Et puis si ça va trop vite, entre guillemets, là, il y a trop de collisions, donc on n'arrive à rien faire. En fait, c'est un peu ça, Daniel.
Mais enfin, l'idée essentielle de cette synthèse, en réalité, si on a bien écouté, c'est que c'est pas un mélange de toutes les hypothèses précédentes, mais c'est simplement que les hypothèses précédentes donc souffraient d'une lacune, bien sûr, observationnelle, mais en même temps, elles n'étaient pas très bien pensées non plus. C'était un peu simpliste, parce que finalement, là, vous avez l'idée, justement, d'un mécanisme de collision, en même temps d'un mécanisme de mise en orbite, et aussi une espèce de capture. Alors, en fait, c'est que les collisions, comme l'a si bien rappelé Willy Benz, elles sont nécessaires pour former les planètes. S'il n'y a pas de collision, tous les grains de poussière sont sur les orbites parallèles, il se passe rien. À l'inverse, si les collisions sont trop importantes, eh bien, on détruit tout. Donc, et en même temps, d'ailleurs, on renvoie très loin.
En fait, on détruit ce qu'on a fait.
Par éjection, un mécanisme d'éjection qui serait issu d'une collision trop violente ne parviendrait pas à former un satellite comme la Lune. Donc, il faut des collisions qui soient nées d'orbites obliques, mais pas trop obliques, pour pas que la collision soit trop violente, il faut pas que les masses soient trop violentes. Si elles sont pas assez, il se passe rien. Si elles sont trop, on éparpille des débris et on ne forme pas de lune. Donc c'est entre les deux. C'est-à-dire, ce sont des collisions qui sont moyennement importantes, qui vont finir par arracher un petit morceau de la Terre. Donc là, on retrouve que effectivement la Lune est un petit peu fille de la Terre, mais les filles de la Terre, si on veut, mais le parrain, c'est une collision, hein, c'est un corps qui est venu de très loin. Et à ce moment-là, on a un peu cette réflexion sur, disons que les hypothèses précédentes nous ont conduit tout naturellement à la vérité, c'est probablement ça. Alors maintenant, avec des simulations, on en fait sur ordinateur, alors c'est plus comme il y a 20 ans, où on avait des modèles numériques, ou d'énormes ordinateurs pour arriver un petit peu. Là, on peut faire des modèles très importants, où on numérise toutes sortes de paramètres, et on se rapproche de plus en plus de la vérité.
Puis en fait, les ordinateurs permettent de faire des calculs de plus en plus précis.
Voilà, et d'ailleurs, Willy Benz nous a montré des simulations. Dans la salle Bretagne, qui était très très parlante et qui montrait bien que si l'impact était trop violent, on formait rien. Si c'était pas assez violent, ben c'est la Terre qui grossissait, c'est tout. Et entre les deux, eh bien, on forme une lune. Et alors la lune, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle va se former, elle va devenir très grosse, mais finir par devenir petite parce qu'une partie des débris, malgré tout,
vont revenir à la Terre.
Vont s'éjecter et revenir sur la Terre. Alors c'est plein de mécanismes qu'on ne peut finalement comprendre, on ne peut pas les comprendre intuitivement. Il faut les modéliser et on s'aperçoit que si on joue un peu sur les rapports de masse, sur la distance, sur l'angle de collision, les vitesses de collision, on arrive à un moment où on a quelque chose qui se tient et qui montre que la Lune, elle est. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est une demi-sœur, une belle-fille de la Terre.
Ben, c'est vrai qu'après, c'est un peu tout, quoi. C'est la sœur et la fille en même temps.
La sœur et la fille en même
sachant temps. Sachant qu'elle est née là, ce que avait expliqué Willy Benz dans la suite de l'interview.
Willy Benz,
oui. D'un impact géant. Là, on est quasiment sûr, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est la seule théorie qui.
Voilà, ça s'appelle la théorie de l'impact géant. Mais moi aussi, je croyais que ça voulait dire qu'il y avait un gros impact. En fait, non, c'est pas ça. L'impact géant, c'est simplement un impact plus important que les impacts de proximité, mais quand même pas l'impact qui
ça
va
se casser. Ça n'aurait pas détruit, en fait. Il aurait pris un peu...
Même pas la tangente, non, carrément.
La tangente, la sécante, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il n'a pas traversé, il n'a pas pris de plein fouet, il l'a pris un peu sur la tangente. En fait, il a embarqué un bout de la Terre.
Alors, je suppose que nous n'entendrons pas...
Il y a
encore une...
Oui, il y a la suite.
Il y a la suite.
Ah, un programme, faut le suivre, Daniel.
Oui, alors parce que j'allais vous dire qu'effectivement, mais d'ailleurs, je crois que Willy Benz m'en parlait, c'est que ces études-là vont nous amener effectivement à dépasser le cadre Terre-Lune, et qu'une fois qu'on a bien compris notre système, on va pouvoir faire des hypothèses sur la formation non seulement d'autres ensembles semblables, mais aussi d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires. Parce que ce qui se passe pour la Terre et la Lune, ça s'est passé entre le Soleil et les planètes. Hein. C'est ces mécanismes de ce petit jeu-là de formation. Voilà. Alors, on va entendre la suite de l'interview.
Donc, cette hypothèse-là qu'on retient actuellement.
Alors, voilà. Disons, elle n'est pas... Je dirais qu'il y a encore des points à éclaircir. Par exemple, les questions qu'on débat aujourd'hui, c'est... exactement la taille de la Terre au moment de l'impact. Est-ce que la Terre était 99% formée ? Est-ce qu'elle avait pratiquement toute sa masse qu'elle a aujourd'hui ? Ou est-ce que la Terre n'était qu'à moitié formée, par exemple ? Quel était le statut évolutif de la Terre au moment de la collision ? Ça, c'est une des questions. La deuxième question, c'est l'origine du projectile. D'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il vient de la banlieue immédiate ? Ou est-ce qu'il vient de plus loin ? Parce que vous avez soulevé au début qu'il y a des ressemblances frappantes dans la composition chimique entre la Lune et le manteau terrestre. Et la question, par conséquent, c'est comment ça se fait que cette ressemblance, qu'il y ait cette ressemblance, si la Lune, c'est des débris d'un projectile, ça voudrait dire que ce projectile doit s'être formé relativement dans les environs de la Terre, sinon sa composition chimique serait très différente. On sait, par exemple, que les rapports isotopiques de l'oxygène sur Mars sont différents de ceux sur Terre. Par contre, ils sont identiques à la Lune. Donc, on voit qu'il y a un puzzle ici, qu'il faut essayer de concilier toutes les pièces. Et la théorie, c'est pour le moment, cette théorie de l'impact géant, c'est certainement celle qui est capable d'expliquer le plus d'observations. Mais il y a encore des points à débattre et à mettre au point. Par contre, je dirais que les choses progressent résolument.
Donc, impact géant avec un objet qui n'était finalement pas trop loin de la Terre.
Oui, alors cette théorie de l'impact des géants qu'on a esquissée lors du précédent passage, là elle se conforte peu à peu, c'est-à-dire qu'on va expliquer avec les modèles numériques, grâce aux modèles numériques, effectivement, la Lune, d'une part, elle ne peut pas provenir, donc au départ il y a un projectile, hein, ça c'est clair, il y a une collision, réellement, avec non pas la Lune actuelle, mais avec un truc qui lui ressemblait. Et alors ce qui s'est passé, c'est que cet objet est rentré en collision avec la Terre, a provoqué un arrachement d'une partie de la Terre, et non pas de tout, ce qui explique qu'il y a cette différence chimique, si légère soit-elle. En fait, la Lune, fille de la Terre en quelque sorte, mais fille en tout cas du manteau, c'est-à-dire la croûte, plutôt que ce qui explique qu'il y a un peu moins de fer. Et après...
En fait, dans les simulations numériques qu'ils ont montrées, en fait, le fer, étant beaucoup plus lourd, est attiré plus vers la Terre que par le
par la Lune.
Parce qu'en fait, quand l'objet qui va faire l'impact, lui, va complètement être explosé. Donc en fait, toutes les particules vont se retrouver un peu n'importe comment, et en fait, les particules les plus lourdes vont être attirées par le plus lourd aussi. Donc en fait, même les particules de fer, en fait, vont s'attirer plus vers la Terre, et en fait, il va rester que la partie plus roche, en fait.
Voilà, et en même temps, on voit que cet objet sur les simulations, moi je l'ai encore en mémoire, hein, on voit très bien cet objet évoluer au fil du temps, devenir d'abord très gros, puis devenir de plus en plus fin, au fur et à mesure qu'ils se contractent, qu'ils se compactisent, si je puis employer ce verbe, et pour finir par donner la Lune actuelle. Et ça, c'est vrai que c'est un peu une synthèse des théories précédentes.
Bah, ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est que ça expliquerait la formation de la Lune, c'est la théorie la plus en vogue. Mais il reste encore pas mal de points, comme il l'a dit. Quand est-ce que c'est arrivé? Quelle taille avait la Terre? Quelle taille avait l'objet? Voilà. Et en plus, ces fameux objets, comme il a dit tout à l'heure, il parlait un peu des trucs compliqués comme l'isotope. En fait, c'est un système assez simple, ce qui permet en fait de savoir en fait la composition d'une planète. Et en fait, bien pour que la Terre et la Lune soient si similaires, il faut en plus que l'objet qui a créé ça ait été créé en près dans le même voisinage.
Oui,
ça veut dire en fait que
c'est un objet...
on a quand même un gros objet, il y a la Terre, il y a un gros objet qui est créé pas très loin, qui arrive, qui tape dans la Terre, les deux forment Terre et Lune, voilà. Mais c'est vrai que ça peut pas être un objet qui vient du fond du système solaire, parce que dans ce cas-là, il aurait beaucoup, pas la même composition, comme les planètes les plus proches du Soleil n'ont pas la même composition que les planètes les plus loin.
Voilà, c'est effectivement une planète sœur, et en même temps, la Lune, comme tu l'as dit, hein, fille et sœur, la Terre, c'est les histoires de famille se compliquent, notre voisinage immédiat. En tout cas, on dispose actuellement d'une excellente, on va dire, une théorie pratiquement, comme il l'a dit aussi joliment, 90%,
ouais.
Hein, c'est joli ça, 90%, avec notre 90, on a l'air fin, nous.
99, hein, ouais.
70, alors ils disent pas octante, hein, ils disent bien 80. Ils trouvent ça un peu ridicule, mais ils disent 80. Par contre, ils disent 70
et 90.
Alors ça, maintenant, on va peut-être dire comme ça, nous, parce que je trouve ça, c'est beaucoup plus proche
de la logique.
Ça fait partie de notre
40, 50, 60.
Notre esprit frondeur et subversif se satisfera de cette première, de ce premier amuse-bouche. Voilà, donc nous allons terminer cette interview de Willy Burns, parce que je ne peux pas résister à la tentation toujours de demander à l'astrophysicien, mais qu'est-ce qui vous a amené à ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a passionné avec la Lune, qui est un objet qu'on pourrait prendre pour banal, mais en fait, hein, je pense qu'il va en parler, et ça nous amène quand même beaucoup plus loin, ça nous permet de comprendre beaucoup plus de choses, et ma foi, la Lune, ça reste quand même un objet magnifique.
C'est
l'astre des poètes, et puis ils ont bougrement raison, là.
C'est assez génial, c'est qu'en fait, comme il va le dire après, c'est un peu tombé en désuétude il y a quelques années. On croyait que, une fois que les sondes sont venues, c'est fini, quoi. On connaît toute la Lune, on a été faire un tour, c'est bon, on n'a plus là pour rien à apprendre.
Le moment qu'on a fait interview à Mont-de-Marsan n'est plus intéressant, mais ça, tout cela est faux. Moi,
voilà.
J'ai vu Mont-de-Marsan, c'est très intéressant. Eh bien, nous allons écouter la dernière partie de cette interview.
Totalement de paysage dans ma question, c'est vous qui êtes physicien, hein, qui êtes professeur de physique à Berne, vous avez travaillé d'ailleurs avec le professeur Mayer, qui a découvert d'ailleurs 51 Pégase à l'Observatoire de Haute-Provence. Vous avez travaillé aux États-Unis, l'article de 1987, vous l'aviez écrit lorsque vous étiez aux États-Unis. Vous pouvez nous raconter un peu votre cheminement? D'abord, dans ma question, il y a deux questions. Quel est un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené, vous, physicien, à vous intéresser à la Lune?
Alors, j'ai fait mes études donc en Suisse, à Neuchâtel. Ensuite, j'ai fait ma thèse à Genève, à l'Observatoire de Genève, avec le professeur Mayer. À l'époque, il ne s'agissait pas de planètes, on s'intéressait à la rotation des étoiles. Et on a beaucoup mesuré, toujours à l'Observatoire de Haute-Provence, avec l'appareil qu'il avait construit avant celui qui a permis de découvrir les planètes. La question qu'on s'est toujours posée avec lui, c'était d'un petit peu de savoir quelle était l'origine de la rotation stellaire. Et on en vient tout naturellement à se poser la question de la formation des étoiles. Et au moment où on se pose la question de la formation des étoiles, vient la question du cortège planétaire qui suit la formation des étoiles. Donc voilà un petit peu l'origine de mon intérêt pour la formation de systèmes planétaires. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini ma thèse, je suis parti aux États-Unis, où en fait je suis resté 13 ans avant de revenir à Berne, en Suisse, à l'Institut de physique.
Vous étiez resté à Los Alamos, hein, l'observatoire qui est situé où?
C'est au Nouveau-Mexique, donc si vous voulez, c'est assez au sud des États-Unis, à l'ouest, entre le Mexique et puis le Colorado. Donc c'est au sud-ouest des États-Unis.
Vous avez été dans le Far West et vous êtes venu chez nous à Nantes, dans l'ouest français. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir et c'est avec intérêt que nous allons entendre cette conférence qui est un peu originale, hein, dans notre cycle. Bien que la Lune soit un objet familier, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à propos de la Lune. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se disait, mais comment peut-on encore s'intéresser à la Lune aujourd'hui alors qu'on voit des galaxies ou des quasars à l'autre bout de l'univers ? Eh bien, l'origine de la Lune peut-être détient la clé de l'explication de l'origine de la Terre, qui, je pense, même si c'est un peu égocentrique, mais nous intéresse tous. Et donc peut-être que de comprendre l'origine de la Lune, ça va nous donner la clé qui va nous permettre de savoir comment se forment des planètes comme la Terre. Et peut-être, bien sûr, la question fondamentale qui se cache là derrière, c'est la question de est-ce qu'il y a d'autres Terres dans l'univers ? Et peut-être qu'on arrivera à répondre à cette question si on arrive à comprendre comment la nôtre s'est formée.
Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Willy Benz. Merci.
Je vous en prie, le plaisir pour moi.
Alors, c'était une belle conclusion. Hein. Je crois que l'ouverture sur les systèmes extrasolaires, dont d'ailleurs je crois Maëlle va nous parler un petit peu tout à l'heure, et c'est aussi, ça nous rappelle un peu modestement qu'il n'y a pas en science d'objets secondaires. Il n'y a pas de sujet ringard, il n'y a que des bons et des mauvais chercheurs, il n'y a que des gens passionnés et puis des gens plutôt conformistes. Je crois que la science, à propos des objets les plus banaux, les grands scientifiques ont fait des découvertes majeures.
Ça montre aussi en fait que il faut aussi, pouvoir appréhender un sujet, avoir aussi de la culture des autres.
Exactement.
Des autres sujets, donc on voit bien le parcours de Willy Benz qui peut paraître bizarre, il part sur les planètes, les étoiles, il change complètement de domaine.
Mais on a
et
eu,
en fait, ça voilà. Reste toujours lié, comme il explique, la rotation, les formations.
On etc. a eu la belle démonstration lors de la conférence de Thierry Monmerle au mois d'octobre, qui était la première du cycle, où on a vu avec quel brio un chercheur de haut niveau, qui était Monmerle, aborde à propos de l'univers des rayons X, finalement, on a balayé l'ensemble du domaine de l'astronomie, on a parlé d'étoiles, de planètes, enfin, c'est vraiment pas, effectivement, il faut avoir une culture et surtout, il faut
pas se limiter.
Mettre au service d'un sujet tout l'arsenal, tout ce qu'on a acquis entre temps et de techniques et de connaissances théoriques ou pratiques. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas hésité à inscrire une telle conférence à notre cycle
qui a bien plu.
Qui a très beaucoup plu puisque
aussi,
puis alors elle a plu à deux titres parce que il y avait deux sortes de publics. Il y avait ceux qui effectivement sont venus dans une démarche, on va l'appeler plutôt scientifique, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va apprendre à propos de la Lune, le type a l'air intéressant, etc., etc. Et vous aviez plein de gens qui sont venus en se disant bon, on va parler de la Lune, ça va être un sujet pas trop compliqué. Alors ceux-là, ils n'ont pas été déçus, puisque ils sont aperçus qu'effectivement la Lune, c'était un objet qui leur était familier, et puis ils ont appris à propos de ça comment fonctionnait la science, et ils ont aussi tout compris. Et j'espère que ces gens-là continueront à nous suivre et à comprendre qu'il n'y a pas de sujet, autant il n'y a pas de sujet ringard et de sujet noble, autant il n'y a pas de sujet difficile ou de sujet facile. Il y a des sujets qui sont bien traités, d'autres mal traités. Alors, dans nos conférences, je pense que vous êtes souvent gâtés.
Tout à fait. Ouais. On n'a que des belles conférences. En parlant de la conférence, on va bientôt aborder, après les Actu Astro, une petite pause musicale, la conférence suivante. Vous savez, vous pouvez gagner des places en nous téléphonant au 02 40 93 26 62 et en répondant à la question suivante que Daniel va vous poser. Si vous nous téléphonez, c'est sur là pour vous gagnerez des places pour la conférence du vendredi 14 décembre au Bretagne.
De Christian Magnan. C'est une revue critique de la science et c'est par un grand astrophysicien. Il a écrit des bouquins sur la relativité. Il s'intéresse à tout ce qui est comment fonctionnent les sciences. Donc c'est une conférence. La science tourne-t-elle en rond ?
Voilà.
Alors la question est
la question simple,
qu'il va parler de cosmologie un peu. Alors on va rester dans le domaine du sein, parce que si vous êtes 10 ou 20 à gagner, ça ne nous gêne pas. Hein. On a une mezzanine qui peut accueillir une centaine de personnes. Alors voilà la question, quel est l'astronome qui a décrit la fuite des galaxies ? C'est-à-dire qui a découvert que les galaxies s'éloignaient les unes des autres ?
Voilà.
Quel est l'astronome ? Quel est son nom ? Qui est très connu.
Donc vous devez la réponse au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Et vous répondez à cette question. Quel est l'astronome qui a découvert et mesuré la fuite des galaxies ?
Et vous gagnerez une place.
Pour la conférence, tout de suite.
Et si vous répondez deux fois en pinçant votre nez, on croira que vous êtes une autre personne, vous en gagnerez une autre pour votre copine ou votre copain.
Voilà, si vous n'avez pas la bonne réponse, n'hésitez pas à rappeler.
En plus.
Ah oui, vous pouvez rappeler, vous pouvez faire un deuxième essai, on saura
vous
pas.
Vous prenez le dictionnaire, prenez tous les astronomes. Et puis,
comme on prend les noms que des gagnants, si vous perdez, on saura pas que c'est vous qui avez perdu.
On ne citera pas à l'antenne.
Voilà.
N'hésitez pas à appeler, tout de suite une petite pause musique. C'était Ça fait des nuits de, interprété plutôt par Florent Pagny. Vous êtes sur Alternante, 98.fm à Nantes, 91 à Trinac-Saint-Nazaire, en compagnie de la Société de l'Astronomie Nantes pour Pulsan, l'émission mensuelle sur l'astronomie, sur Alternante. Vous pouvez gagner des places pour la conférence du vendredi 14 décembre de Christian Magnan sur « Est-ce que la science tourne en rond ?» en répondant à la question suivante. Quel est l'astronome qui a mesuré et découvert la fuite des galaxies ? Pour cela, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Vous répondez à la question et tout simplement, vous avez une place gratuite.
J'ai un commentaire sur les 02 40 machin. Oui. Truc. Alors, je parle, c'est pas contre le numéro d'alternante, mais quand ils ont introduit les numéros à 10 chiffres, grave erreur.
Bah, ils n'ont pas le choix.
Si, il y avait le choix. Et alors, maintenant, je vais te dire autre chose. Les corbeaux savent compter jusqu'à 8, et l'homme ne sait pas compter plus que jusqu'à 8. C'est-à-dire que si on dépasse le chiffre de 8, l'esprit humain ne peut plus appréhender globalement. Il est obligé de décomposer, de faire deux opérations mentales. Ce qui fait que les numéros à 10 chiffres, et depuis qu'ils existent, vous faites le test autour de vous, on peut plus les retenir. On est obligé de faire un... Alors que 0,240, c'est facile à retenir. Hein, d'ailleurs, puisque c'est commun à tous les numéros du département, je me demande pourquoi on s'embête à les mettre devant. Déjà, il y a...
Non, mais c'est un problème de numérotation, Daniel. C'est un problème de...
J'ai réfléchi. Non, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. C'est des... Bon, bref.
C'est idiot
de mettre des numéros à 10 chiffres. Voilà.
Mais non, t'as pas le choix. Tu vas pas faire le système de la province avec Paris où il fallait savoir si t'es en province
ou
pas.
Je voulais pas lancer la polémique. Je voulais simplement dire qu'au-dessus de 8... C'est idiot de faire des numéros qui dépassent 8. Faut trouver un autre système.
Ben, il y en a pas.
Bah, si.
Ben non, tu prends l'exemple de la province, c'était à Paris, c'était une cacophonie incroyable. C'est qu'en fait, les gens les Parisiens qui descendaient en province, ils faisaient pas le 1 ou le 16, donc ils croyaient téléphoner leurs copains de Paris, puis ils tombaient sur les gens de la province. Donc,
bon.
Il faut que tu aies un système pour pouvoir différencier. Maintenant, c'est plus simple. C'est vrai que 10 chiffres, mais bon, à la rigueur, quand il y aura encore plus de monde, il en faudra 12, hein, peut-être, je sais pas.
Voilà, l'ingéniosité de l'homme a donc des limites. Mon cher Maël, non, c'est toi qui...
Oui, ça va être Maël qui va nous présenter les actus astro. Vu qu'il y a beaucoup d'actualités ce mois-ci, eh bien, on a fait les actus astro en deux parties. Non pas qu'on a séparé les actus astro, on les a coupés, mais on a augmenté, en fait, le volume des actus. Donc là, vous aurez deux actus astro.
On commence par les scindés et éventuellement on les sépare. Mais voilà. On n'est pas forcé de les séparer après les avoir coupés.
Tout à fait. Donc là, première partie des actus astro.
Alors, comme vient de le dire Thierry, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités ce mois-ci. Alors, je pourrais pas tout résumer, donc je vais avoir à parler, vous allez un peu m'entendre.
Allez, vas-y, c'est parti.
Alors, pour commencer, au début du mois de novembre, nous avons eu une petite nouvelle. Des radiations cosmiques pourraient naître dans la Voie lactée.
Fouilla.
Des scientifiques pensent que la Voie lactée, notre galaxie, vous la connaissez, c'est celle qu'on voit dans le ciel avec son joli petit ruban blanc. Cette galaxie contiendrait des éléments nécessaires pour produire des radiations cosmiques, l'une des plus puissantes énergies. Elle pourrait causer l'extinction de la vie sur Terre.
Ah. Bah oui, s'il n'y avait pas l'atmosphère...
Exactement. Les radiations terrestres proviennent du Soleil ou d'autres étoiles de notre galaxie. Les radiations super-énergétiques, elles, ne viennent pas des étoiles qui sont dans notre entourage, mais viennent de beaucoup plus loin. Elles viennent de sources rares, comme la matière cachée, comme... les trous noirs. Et donc, ces chercheurs ont découvert que dans la banlieue des trous noirs, des énergies fantastiques étaient créées et pouvaient causer la disparition de la vie. Alors, la nôtre, peut-être pas, parce que finalement, on est très loin du plus proche des trous noirs. Hein. Le plus gros et le plus dangereux, il est au centre de la galaxie, 26 000 années-lumière, on est tranquille.
Oui, puis alors, faut pas trop le dire, parce que les gens iront se faire bronzer à côté de cette source d'énergie, tellement ils...
Non, on se la garde.
Ouais.
Sinon, autre actualité,
plus gentil,
le satellite SOHO, hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un satellite qui tourne autour du Soleil et qui prend des images qui nous permettent un peu de sonder son intérieur.
C'est un quartier de New York, SOHO aussi. Ouais.
Oui, mais c'est pas le quartier de New York, là. Eh bien, ce satellite a permis de diagnostiquer que le Soleil subissait des étranglements tout seul, hein. Il n'y a pas besoin qu'on l'aide. C'est-à-dire que le champ magnétique du Soleil s'enroule ça on le savait déjà, mais il s'enroule de telle manière qu'il emprisonne de la matière dans des colonnes qui sont en dessous les taches sombres qu'on peut voir à la surface, et que donc la matière peut rester...